Alors, la leçon 4 aujourd'hui va parler d'un thème, c'est être aimé, être respecté. Comme je le disais, l'emphase n'est pas mise sur cet aspect-là. Généralement, l'évangile de prospérité ne développe pas cet aspect par rapport à la richesse et à la santé. Mais c'est un élément des deux piliers. C'est une conséquence logique des deux piliers. Et c'est enseigné aussi dans certains messages, dans plusieurs messages. Les mots-clés qui reviennent dans cet enseignement, c'est « on doit être aimé ». On doit être respecté. On doit avoir de la grandeur quand on est chrétien. On doit avoir un grand nom. Un nom qui a une renommée internationale. Je lisais un message où, à la conclusion, il dit, mais votre nom, à quoi ça renvoie? Est-ce que les gens vous connaissent quand on prononce votre nom? Est-ce que ça renvoie à quelqu'un d'inconnu, à quelqu'un qui est connu? On doit avoir de la popularité. On doit être honoré. On doit avoir de la promotion. On doit se marier. On doit voyager. On doit avoir de l'élévation. Donc, ce sont les mots-clés qui reviennent dans ce sujet. Joel Osteen disait que chacun de nous est né pour la grandeur sur la terre. Tu es né pour gagner. Dieu te voit comme un champion. Oui, Dieu peut nous donner de la grandeur, mais Dieu peut décider que nous soyons inconnus, nous soyons dans une région où personne ne nous connaît. Mais il peut nous utiliser parallèlement pour toucher ceux qui sont juste à côté de nous. Ça, c'est de la grandeur aux yeux de Dieu. On va en revenir dans la suite du coup. Dieu veut que nous soyons promus. Ça, c'est Donalto Anzaton. C'est sa volonté et sa promesse envers nous. C'est son objectif. Là, j'ai souligné, là. Est-ce que c'est ça l'objectif de Dieu? Que nous soyons promus, que nous ayons de la promotion, que nous soyons élevés. Et il dit que la promotion, c'est le résultat d'un cœur renouvelé. On peut regarder autour de nous, là, les gens qui sont connus, qui ont une autorité internationale. Est-ce qu'ils ont un cœur forcément renouvelé? Est-ce qu'ils ont un cœur renouvelé? On va revenir dessus également dans la suite du coup. Mais les textes qui sont cités généralement pour parler de l'élévation et de la grandeur sont les suivants. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi quelques-uns à partir de quelques messages que j'ai écoutés. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, dit ceci. L'Éternel Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Mais pourquoi s'appuyer sur ce que l'Éternel dit à Abraham? Vous l'avez compris, parce qu'on a vu le cours 2, parce qu'un parallèle est fait avec Galates 3, verset 14, où ce qui est dit, c'est « afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. » Donc, si la bénédiction d'Abraham se trouve pour nous en Jésus-Christ, ça veut dire qu'en Christ, notre nom doit être aussi grand. Dieu rendra notre nom grand. C'est ça le parallèle. Mais je reviens dessus, on a vu au cours 2, d'ailleurs, je pense que Richard est venu aussi dessus, sur le cours 3. La bénédiction d'Abraham, c'est d'être sauvé par la foi. Le texte est clair quand on lit, on l'a étudié dans Galates 3. Le texte est bien clair, parle de la foi et de la loi. Il ne s'agit pas d'une bénédiction matérielle ni financière. Ceux qui sont placés sous la loi sont sous la malédiction de la loi parce qu'on ne peut pas accomplir toute la loi. Mais Dieu a choisi de nous bénir au travers de la foi et de la foi en Jésus. C'est ça la bénédiction que nous avons. Parce qu'Abraham a été justifié par la foi. Donc, ce qui est dit, c'est que Dieu va rendre notre nom grand. Nous allons être aimés et respectés parce que nous avons la bénédiction d'Abraham et c'est ce que Dieu a fait pour Abraham. Également, un autre verset, c'est 2 Samuel chapitre 7, verset 9, où Dieu dit à David, « J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. » C'est Dieu qui dit ça à David. Mais pourquoi faire le parallèle de ce que Dieu dit à David à nous? Parce que justement, dans Matthieu chapitre 28, au verset 20, Jésus dit à ses disciples, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, le parallèle qui est fait, c'est que si Jésus est avec nous tous les jours, alors que Dieu, quand il était avec David, c'est ça, il dit, « J'étais avec toi partout », ce qui s'est produit, c'est que son nom a été grand. Donc, si Jésus est avec nous, c'est de toute évidence que notre nom devrait être grand. Il n'y a donc pas de raison que le chrétien ne soit pas renommé, qu'il ne soit pas élevé, qu'il ne soit pas promu, qu'il ne soit pas respecté, qu'il ne soit pas aimé. Le parallèle est clair. Quand Dieu a été avec David, son nom a été grand. Il a éliminé tous ses ennemis. Donc, si Jésus nous promet d'être avec nous, tous les jours, notre nom sera grand, nous serons promus et nous n'aurons pas d'ennemis, sinon nos ennemis vont connaître la poussière et nous aurons des gens en face de nous, ceux que nous rencontrons, qui nous aiment véritablement. C'est ça le véritable désir. Le désir, c'est d'être vu, d'être honoré, d'être aimé par tous. Et ça transcrit, même quand ce n'est pas un enseignement directement donné sur être aimé, être respecté, ça transcrit dans ce qui doit être l'objet de nos pensées. J'ai repris quelques phrases de Joss Meyer. Vous ne pouvez pas vous attendre à être aimé par les gens si vous pensez tout le temps que les gens ne vous aiment pas. Elle enseigne ici sur la pensée, ce qu'on veut discuter ce matin, mais c'est ce que ça sous-entend, ce qui est sous-entendu, c'est que nos pensées, c'est que les gens doivent nous aimer. Est-ce que c'est ça que la Bible veut nous enseigner, que tout le monde doit nous aimer, que tout ce qu'on rencontre doit nous aimer? Quand j'étais encore pauvre, j'ai commencé à dire, je suis prospère, j'ai tellement d'argent que je ne sais pas que faire avec. Waouh. Je peux bénir tous ceux que je rencontre, je porte de beaux habits, je conduis une belle voiture, je vis dans une belle maison, je suis béni et tous ceux que je rencontre veulent me bénir. Donc là encore, elle enseigne sur la pensée, mais ce qui est dit amène ce que croit l'évangile de prospérité, c'est que les gens qu'on rencontre doivent nous bénir, ils doivent nous aimer. Et au travers de notre habillement, de nos possessions, donc elle veut de beaux habits, une belle voiture, ceci n'est pas mauvais en soi, mais quand ça devient la pensée continuelle et que c'est ça que tout chrétien doit avoir, là ça commence à poser un problème. Parce que la Bible nous enseigne autre chose, on va le voir dans la suite. Sinon, c'est pas mal d'avoir une belle voiture. D'ailleurs, j'ai une voiture que je souhaiterais changer. C'est pas mal d'avoir une belle maison. C'est pas mal de porter de beaux habits. Dieu ne veut pas qu'on s'habille forcément en haillons, là, non? Mais est-ce que c'est ça qui doit être l'objet de mes pensées chaque jour quand je me réveille et que je dois proclamer ça? Dimanche prochain, c'est la parole de proclamation. On verra que c'est pas forcément mauvais, mais sur quoi on base cette proclamation et qu'est-ce qu'on proclame? Là, ça pose un problème. Je voudrais vous faire remarquer que pendant la vie de Jésus sur terre, tous ceux qui le rencontraient ne le bénissaient pas. Pourtant, lui, c'est le Fils de l'homme. Dieu fait chair, qui n'a aucun péché. Normalement, tout le monde devait l'aimer. Et même encore aujourd'hui, les gens n'aiment pas Jésus. Alors, ce message transparaît dans l'attitude de plusieurs prédicateurs. Je ne dirais pas tous, mais en tout cas plusieurs d'entre eux. Ça transparaît à travers des titres honorifiques concurrentiels qui se donnent. Celui-là est apôtre des nations, l'autre vient, il devient le bishop, l'autre devient l'archibishop, le patriarche, ok, le révérend. Ça transparaît également à travers le protocole d'élévation qui frise le culte de la personnalité, disons-le clairement, sincèrement. Ça se trouve en Afrique, ça se trouve en Amérique du Sud, ça se trouve en Amérique du Nord. Aline faisait la navette quand elle était à Québec. Ce qu'elle me raconte, c'est qu'un jour, elle décide de ne pas venir ici, c'est l'hiver et tout ça, elle décide d'aller dans une église à Québec. Mais quand elle arrive dans ce lieu de culte, vraiment, elle est choquée par tout ce qu'elle voit. Mais ça, c'est tellement habituel dans bien d'églises que ce n'est pas si choquant pour certains. Oui, celui qui prêche lui-même, il n'attrape pas sa Bible. C'est quelqu'un d'autre qui attrape sa Bible parce que, quand même, c'est le bishop. Et quand il rentre, il y a toute une cohorte de personnes qui font le protocole. Pendant la louange, mais il n'est pas là parce que la louange, c'est encore petit pour lui. C'est quand il va venir, il faut que le peuple s'élève pour l'accueillir. Donc, s'il vient en même temps que les autres, on ne pourra pas l'accueillir. La louange se passe et puis il faut l'annoncer pour qu'il vienne. Et quand il arrive, tout le monde doit se lever. On doit s'écarter. Et c'est lui qui va donner l'ordre que les gens s'asseyent. Tout le protocole qu'elle a vu là-bas, elle était choquée. Mais ce n'est pas si loin, c'est à Québec. Et ça, c'est quotidien. Vous n'avez pas dit dimanche après dimanche. Christ doit être honoré. Nous devons tourner les regards des disciples vers Jésus et non vers nous. Je le dis très souvent, moi, c'est la chose qui me marque. Quand on devait arrêter Jésus-Christ après 3 années de ministère, comment est-ce que ceux qui sont allés l'arrêter devaient le reconnaître? Comment est-ce qu'ils ont pu le reconnaître que c'est lui le Jésus? Comment? Par un baiser. Et pourquoi pas un baiser? Pourquoi il fallait un baiser pour reconnaître Jésus s'il était déjà sur un piédestal? Si quand tu arrives, tu sais que ça c'est Jésus, les autres ce sont les disciples. C'est parce qu'il était confondu. L'humilité qu'il avait avec les disciples et tous ceux qui le fréquentaient, il était confondu. Il n'était pas sur un piédestal. On n'avait pas besoin d'un baiser. Mais dans certaines églises, quand tu rentres, tu n'as pas besoin de demander qui est le bishop ici, tu le vois. Tu le sais. Bien-aimé, revenons à la parole. Examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. J'ai pris les paroles d'un prédicateur qui fait partie du milieu. Donc, ils se côtoient, ils se connaissent tous bien, mais c'est une prédication qu'ils donnent. Et ça, ça m'a frappé. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients de ce qui se passe dans le milieu. Il s'appelle Marcelo Tunassi, très connu aussi au niveau du net. Il dit souvent, nous, les hommes de Dieu, nous n'aimons pas ça, l'humilité. De sorte que lorsqu'un homme de Dieu est humble, ça étonne les gens. On dit non, ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi elle est humble comme ça? Nous voulons l'élévation, mais nous sommes très orgueilleux. Ça, c'est lui qui le dit. Alors, le message qui est enseigné, il est simple. D'abord, c'est que Dieu nous donne une bonne santé physique pour que nous puissions jouir des grandes richesses matérielles et financières qu'il nous offre. Parce que si tu es malade, comment ce que Dieu te donne, tu vas faire pour jouir? Donc, les deux doivent aller de pair, la bénédiction et la santé. Et ce qui fait la base du coup 4 ici, c'est ça. Afin que les autres nous aiment, qu'ils nous respectent et même qu'ils nous envient et qu'ils se tournent vers le Seigneur pour ses bénédictions et sa puissance. Parce que quand les gens te voient, ils se disent, mais c'est qui son Seigneur? Parce que façon qu'il est riche, façon qu'il est élevé, façon qu'il a la promotion, moi je veux avoir ça. Donc je me tourne vers son Seigneur. Est-ce que les gens doivent se tourner vers Jésus pour les bénédictions matérielles et financières? Est-ce qu'ils doivent se retourner vers Jésus pour la guérison qu'ils vont avoir? Ce n'est pas ça le message premier, le message central de la Bible. Christ est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nos péchés. Les gens doivent se tourner vers Jésus parce qu'ils sont pécheurs. Et que la seule personne qui peut sauver, c'est Christ. Donc, si on a des prédicateurs qui sont matériellement et financièrement respectables, ils vont avoir une audience respectable. Il y aura du monde et une percée de popularité. Alors, la question qui se pose, c'est l'élévation, la promotion, l'amour des gens, la popularité, la grandeur, est-ce bien cela le partage de chaque chrétien sur la terre? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Parce que c'est ce qui est affirmé, c'est ça que Dieu veut pour nous sur la terre. Est-ce que c'est une retombée de la croix du Christ? Donc, chaque croyant doit bénéficier. J'ai souligné encore ce verset, parce que c'est un verset qui a été pris, mais ils ont pris juste une partie. Je retourne là, on va trouver le verset lui-même. Matthieu 28, quand on faisait le parallèle de la bénédiction de David et la promesse du Seigneur. Le Seigneur, il a dit, je serai avec vous tous les jours. Donc, comme Dieu a été avec David, qu'il a rendu son nom grand, nous, Dieu va rendre notre nom grand. Mais ce qu'on oublie, c'est que le Seigneur a commencé par dire, enseignez-leur à observer tout. On ne peut pas se focaliser sur une partie de la parole de Dieu, sur des bénédictions, et ne pas enseigner souvent les épreuves auxquelles Dieu nous appelle. Il dit, c'est à cela que nous sommes appelés, tout. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce qu'on enseigne la parole de Dieu dans sa totalité? Peu importe l'Église, aucune Église n'a le droit d'enseigner juste une partie de l'Église et de l'enseignement du Seigneur. Et ça, c'est un défi pour nous, c'est un défi pour tout enfant de Dieu. Me focaliser juste sur une partie de la parole de Dieu. La popularité, ce n'est pas un signe incontestable de bénédiction spirituelle. Ou ce n'est même pas le résultat d'un cœur renouvelé absolument. On a l'exemple des stars de la musique, les stars du sport. Michael Jackson est décédé, mais en son temps, quand il arrivait en France pour un concert, les gens étaient en transe à l'aéroport déjà. La foule qui venait pour l'accueillir. Est-ce que c'est parce qu'il avait un cœur renouvelé qu'il avait cette promotion? Aujourd'hui, citons le nom d'entre nous, je ne sais pas, moi je pense que je suis sauvé et je pense que chacun d'entre vous pense que vous êtes sauvé également. Mais citons le nom d'un d'entre nous et puis citons le nom d'un grand du foot qui ne croit même pas en Dieu. Entre nous, qui a le plus de popularité? Tu n'es même pas connu sur le net. Ah, tu es le plus connu par le Seigneur. John Lennon déclarait en août 1966 que les Beatles sont plus populaires que Jésus. Ça lui a valu en son temps beaucoup de critiques parce que là, on était encore dans l'Amérique où les gens s'attachaient à Jésus. Il dit qu'ils étaient plus populaires que Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ivres de son succès mondial. La gloire doit revenir à Dieu. On ne doit pas tourner la gloire vers nous. La gloire doit revenir à Dieu. Dans Actes 12, 21, on connaît l'histoire, c'est Hérode qui va haranguer le peuple. Et puis la conclusion, c'est nom d'un Dieu. Ça, c'est pas les paroles d'un homme. Lui, c'est un Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rongé par des vers. La gloire doit revenir à Dieu. Qu'on soit hors de l'église, qu'on soit dans l'église, on doit penser à tourner les regards des hommes vers Dieu. C'est vrai que l'homme de Dieu doit être respecté. Comme tout enfant de Dieu doit être respecté, c'est normal. Il ne va pas être un voleur, un menteur, et puis dire que les gens me voient mal parce que... Non. La Bible dit qu'on ne doit pas souffrir pour les mauvaises actions qu'on pose. On doit souffrir pour le nom du Seigneur, en marchant selon le nom du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tourner les regards des gens vers nous. Même dans l'église, qu'on soit pasteur, qu'on soit membre du conseil, qu'on soit membre de la chorale, qu'on soit musicien, les regards doivent être tournés vers le Seigneur. C'est à lui seul que doit revenir la gloire. Jésus lui-même, comme je le disais tantôt, il n'était ni aimé ni respecté de tous. Il n'était pas béni par ceux qui le rencontraient. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Oui.
J'arrête pas de penser à comment est-ce que Jésus fait face à cet évangile de prospérité. Dans Matthieu 16, mais même face à Pierre à un moment donné, Matthieu 16, verset 22. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle à ma mission. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des pensées toutes humaines.
Toutes humaines. Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la croix. De toute façon, ceux qui croyaient en Jésus en ce moment, ils pensaient qu'il allait rétablir l'ordre, les libérer de la colonisation romaine. À un moment, certains voulaient l'établir comme roi. Non, Jésus n'est pas venu pour la notoriété, la popularité sur la terre. De foule le suivait, mais il a donné sa vie pour nous. N'est pas venu pour cette notoriété. Dans Jean 15, 20, que je n'ai pas mis ici, Jésus dit, souvenez-vous des paroles que je vous ai dites. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. On ne peut pas avoir des pensées, même si c'est au niveau de la pensée, oh, il faut que les gens m'aiment, il faut que tout ce que je rencontre m'aiment, il faut que tous ceux avec qui je travaille au travail m'aiment. S'ils t'aiment, tant mieux, gloire à Dieu.